Alors, Nestorius va connaître l'exil. Il va passer 4 ans à Antioche, finalement la région d'où il venait. Puis il fut expédié en Haute-Égypte. Donc ça veut dire que Cyrille a fini quand même par l'emporter par ses manœuvres auprès de la cour de Constantinople, qui a fini par, comment dire, désavouer le commissaire impérial. Mais il continuera d'écrire. Alors, la plupart de ses œuvres ont été perdues, enfin détruites. Vous savez, à l'époque, il suffit de ne pas recopier un texte pour qu'il soit perdu. Et ça a été, donc, cette disparition des textes de Nestorius a été voulue par l'empereur en 495, 435, pardon. Mais son influence va demeurer au point qu'il y aura une église nestorienne qui va se constituer en Orient. Alors on ne possède que quelques lettres, 11 au total, et quelques sermons, 7, qui sont de la plume de Nestorius. Et ils ont été conservés, les sermons, parce qu'on croyait qu'ils étaient de Saint Jean Chrysostome. Donc, ils n'ont pas été détruits. Et on a découvert en 1895, donc au 19e siècle, à l'époque où tous les érudits anglo-germaniques passaient au peigne fin à toutes les bibliothèques d'Orient.
Vous voulez dire passer au peigne fin, c'est vrai.
C'est-à-dire que c'est l'époque où l'Empire ottoman s'ouvre à la. À l'Occident, et résultat, entre les Allemands qui forment l'armée et puis les Britanniques qui forment la marine, il y a aussi tous les professeurs d'Oxford et Göttingen et d'ailleurs qui débarquent et puis qui passent au peigne fin toutes les bibliothèques locales pour, et ils trouvent des tas de documents. Vous savez, par exemple, la fameuse lettre à Diognète, elle a été trouvée à cette période. Elle était transférée à l'université de Strasbourg, où elle sera détruite d'ailleurs par des bombardements. Mais donc là, on découvre un ouvrage qui expose la véritable pensée de Nestorius, qui est beaucoup moins caricaturale que ce que Cyrille avait bien voulu en dire. Alors, pour comprendre la question, il faut se dire qu'au 5e siècle, les Grecs distinguaient hypostasis. Alors, hypostasis, c'est ce qui se tient sous, étymologiquement, qui désignait les personnes dans la substance divine, disons dans la réalité divine, l'essence divine, l'ousia, hein, donc qui vient du mot être. Et le mot prosopon, qui désignait la personne comme sujet d'action. Donc, vous voyez, hypostasis désigne les personnes dans l'unité de la substance divine, et prosopon plutôt les sujets, la personne en tant qu'elle est sujet d'une action. Alors, dans le Christ, qui a deux natures, donc divine et humaine, les Antiochiens pensaient qu'il y avait deux prosopas, donc deux sujets d'action, un sujet divin et un sujet humain. Autrement dit, ils soulignaient l'autonomie des deux natures dans le Christ et iront jusqu'à dire qu'il n'y a qu'une seule prosopone, un seul sujet d'action dans le Christ, mais en tant qu'unique sujet gérant les deux natures juxtaposées. Donc, vous voyez, au départ, on pense qu'il y a deux sujets d'action. Finalement, ils finissent par se dire qu'il n'y a plus qu'un sujet d'action, hein, mais qui gère les deux natures qui sont juxtaposées. dans la personne du Christ. Un petit peu comme François Joseph qui règne à la fois sur l'Autriche et sur la Hongrie. Hein, vous voyez, on vous donne un exemple. Alors, la théologie alexandrine, elle, donc celle de Cyrille, insistait sur l'unité intérieure de l'unique sujet en subordonnant une nature humaine à une autre nature divine. Donc, si vous voulez, du côté antiochien, du côté de Nestorius, on a plutôt la juxtaposition de deux natures, où on finit par se dire quand même qu'il y a un seul sujet qui agit, mais avec deux natures juxtaposées. Et du côté alexandrin, il y a un seul sujet qui agit, mais avec une subordination des natures. Donc c'est... Alors, à ne pas confondre avec le subordinationnisme. Hein, le subordinationnisme, c'est la subordination ontologique de la deuxième personne à la première, d'une manière excessive. Donc le problème de Nestorius, c'est que sa formulation est en soi juste, mais que l'autre, celle de Cyrille, était préférable. Et le problème, c'est qu'il n'a pas eu l'humilité de l'accepter. Hein, donc c'est à l'époque où ces gens-là sont assez, enfin, manque d'humilité un peu. Hein, donc, et alors ils ont, voilà. Alors, passons maintenant du coup à Saint-Cyrille d'Alexandrie pour voir comment cette question va progressivement se résoudre. Alors lui, on ne sait pas très bien quand il est né, comme beaucoup de gens de l'Antiquité, on sait plus quand ils sont devenus célèbres, on sait quand ils sont morts. Par contre, on a plus de mal à savoir leur date de naissance. Alors il serait né entre 370 et 380. Et donc, il meurt en 444. Alors, comme je vous le rappelle, Saint Cyrille était le neveu de ce Théophile d'Alexandrie, donc, patriarche, qui avait contraint Saint Jean Chrysostome à la démission. Et vous savez que la démission de Saint Jean Chrysostome, ça lui a valu un exil et la mort. Hein. Alors, il se comporta, dit-on, comme un véritable pharaon chrétien. Régnant sans partage, oui, sur tout le diocèse d'Égypte. Alors, sachant qu'un diocèse, hein, dans la nomenclature impériale, c'est une super province. Alors, avant la controverse avec Nestorius, il s'était consacré aux commentaires de l'Écriture sainte et à la réfutation des hérésies, en même temps qu'à l'apologétique contre les païens. Donc il avait une vie bien occupée. Hein. Alors, on conserve de lui des commentaires sur le Pentateuque, donc sur les livres de la loi de Moïse. Alors pourquoi les pères ont tellement commenté le Pentateuque? Parce que le Pentateuque, c'est le noyau de toute la pensée religieuse juive. Et donc, dans leur apologétique, il était important de montrer de manière allégorique comment tous les personnages de ces cinq premiers livres, en fait, pointaient vers le Christ. Et que pour être un bon juif, il fallait devenir chrétien. Alors, un commentaire aussi du rouleau des douze prophètes. Un commentaire de Saint Jean. Et de nombreux fragments d'autres ouvrages qu'on trouve dans les caténas du Moyen-Âge. Souvenez que au Moyen-Âge, sur un sujet, on faisait des sortes d'anthologies, de citations. On citait les auteurs qui avaient parlé de tel ou tel sujet et on appelait ça des chaînes. Donc il est cité dans des chaînes sur tel sujet. Il y a un passage de Cyrille d'Alexandrie qui voisine avec Augustin ou Chrysostome, etc. Alors, contre les Ariens, on a également des traités. Alors, n'oublions pas que l'arianisme était né en Égypte, hein, donc la question restait quand même importante. On a des traités qui explicitent la doctrine trinitaire des conciles de Nicée et de Constantinople, donc fait par Saint Cyrille. Et puis ensuite, après tout ce travail d'interprétation de l'Écriture sainte, d'apologétique, de lutte contre l'hérésie, notamment arienne, eh bien, le reste de ses occupations va être pris par la controverse avec Nestorius. Alors, par des lettres d'abord, puis des anathèmes, puis de véritables traités contre ce pauvre Nestorius. Alors évidemment, les Antiochiens vont réagir, défendre Nestorius, et donc il va aussi entrer comment dire, en discussion avec, par exemple, avec Théodoret de Cyre. Et comme il ne se contente pas simplement de la discussion théologique, il envoie aussi des libelles et des écrits variés à l'empereur, évidemment, pour le mettre de son côté. Alors, Cyrille attaque non seulement Nestorius, mais finalement toute l'école d'Antioche en disant qu'ils étaient des proto-hérétiques. Donc voilà, pour faire comment dire, disqualifier finalement toute une école d'interprétation de l'écriture, vous vous souvenez, qui est beaucoup plus respectueuse du sens littéral de l'écriture, alors que les Alexandrins, s'appuyant sur Philon, vous vous souvenez, Philon, c'est ce grand interprète juif d'Alexandrie, contemporain du Christ, et qui va surtout développer l'idée d'une interprétation allégorique. Donc, en fait, finalement, le texte est surtout prétexte hein, dans la perspective allégoriste. Donc Cyrille attaque l'école d'Antioche et ensuite il va également continuer son travail d'apologète, si l'on veut, en s'en prenant aux apologies païennes qui avaient été reprises par Julien, vous vous souvenez, Julien l'Apostat, hein, qui essaie de rétablir le culte, les cultes païens, avec en particulier Cels et Porphyre, deux philosophes qui attaquent explicitement le christianisme. Alors il va publier un Contra Iulianum Imperatorem qui lui-même avait produit un Contra Galileos, hein, parce que les chrétiens les appelaient les Galiléens. Donc, avec beaucoup de mépris. Alors, il faut dire aussi que le pauvre Julien, il était jeune homme, il était adolescent quand Constantin, nouvellement converti au christianisme, a fait massacrer la moitié de sa famille. Alors, bon, évidemment, ça donne. Vous voyez, quand l'exemple ne correspond pas tout à fait à la doctrine, ça peut produire des effets psychologiques. Et certainement que le paganisme de Julien est lié à la cruauté de Constantin, qui en plus s'enorgueillissait de son christianisme et donc faisait assassiner son neveu, ses fils, enfin, etc. Donc évidemment, ça plaisait. Enfin, voilà, donc Julien a réagi. Oui. Alors, paradoxalement, la formulation christologique de Cyrille d'Alexandrie, donc qui paraissait préférable à celle de Nestorius, allait conduire à une autre hérésie et à un autre schisme, le monophysisme. Parce que, autant Cyrille avait compris que la position de Nestorius conduisait à une sorte de juxtaposition de la divinité et de l'humanité dans le Christ sans vraiment les unir, mais lui, en prenant la position contraire, insistait tellement sur la divinité qu'il en venait à vider de son contenu l'humanité même du Christ. Et du coup, on aboutissait avec le monophysisme, alors pas celui de Cyrille, mais celui de certains de ses commentateurs, à ne voir plus dans le Christ qu'une sorte d'ange ayant pris une apparence corporelle. Vous voyez ? Donc quelque chose de ce qu'on appelait au IIe siècle le docétisme. C'est-à-dire le docétisme, c'est c'est l'opinion, l'apparence. Donc le Christ n'est qu'apparemment un homme. Si on poursuit la pensée de Cyrille d'Alexandrie dans son opposition à Nestorius, on arrive à l'idée que l'humanité du Christ est véritablement très évanescente, n'est juste qu'une apparence sur sa divinité, mais qu'il n'est pas vraiment homme, il est une apparence d'homme, vous voyez, un peu comme Raphaël, qui apparaît sous une forme humaine alors qu'il est un ange. Et alors, autant la répression de la pensée de Nestorius aboutira au schisme nestorien, il y a des églises encore nestoriennes aujourd'hui, autant la réaction contre le monophysisme qui viendra plus tard aboutira aussi à un schisme. Alors autant le schisme nestorien se trouve comme par hasard en Syrie, c'est-à-dire là où étaient les Nestorius et son milieu intellectuel, autant le schisme monophysite va se retrouver en Égypte. On a encore aujourd'hui l'église copte est issue de ce schisme, et les catholiques coptes ne représentent que 1%, je ne sais pas, ou 10%, 5%, enfin je ne sais plus très bien. En tout cas, un chiffre véritablement ridicule. Je crois qu'il y a 200 000, 300 000 coptes catholiques, alors qu'il y a, je ne sais pas combien de millions de... Oui, c'est ça, parce que comme les... En Égypte, ils veulent pas vrai dire, ils veulent pas dire vraiment les chiffres, parce que ça leur ferait trop honte. Mais voilà, il y a... Donc, vous voyez, 300 000 contre 15 millions. Hein. Alors, il faut dire que Cyril était aussi un peu la victime d'une expression qu'il croyait de saint Athanase d'Alexandrie. Alors, saint Athanase, le grand défenseur de l'orthodoxie chrétienne catholique contre les Ariens. Et il croyait de saint Athanase une formule qui est... Alors, je la traduis, j'ai mis en grec. Donc, une seule nature de Dieu, le Verbe, la nature dans le Fils, la nature divine dans le Fils s'est fait chair. Donc, le Logos se fait chair, il ne se fait pas homme. C'est pas Athanase, mais Apollinaire de Laodicée qui avait dit. Le Verbe s'est fait chair, alors vous voyez, c'est la formule de Saint Jean, mais pour lui, la chair, c'est simplement l'apparence de l'humanité. Il s'est fait corps, si vous voulez. Il s'est fait corps, mais il ne s'est pas fait homme, du coup. Il s'est fait corps d'homme, mais pas homme, vous voyez. C'est en défendant cette idée-là, qu'il croyait être du grand patriarche Athanase, que Cyrille d'Alexandrie est tombe finalement dans le monophysisme. Parce que là, on a véritablement l'impression que le verbe prend une apparence, il prend une, vous voyez, il prend une humanité comme on prendrait un vêtement, pour ce, mais dont on peut se séparer tout aussi bien. Donc, le verbe ne se fait pas chair, se fait chair, il ne se fait pas homme, et donc on a une sorte d'absorption de la nature humaine dans la nature divine, et non pas une articulation entre la nature divine et la nature humaine, articulation que justement Nestorius peinait à trouver. Donc vous voyez, il y en a un qui n'arrive pas à articuler, et l'autre qui finit par supprimer cette articulation entre les deux natures. Voilà. Et donc le concile de Chalcédoine va dire que le verbe, eh bien, subsiste en deux natures, mais articulées selon ce qu'on appellera l'union hypostatique. On verra ça un peu plus loin. Alors, là, on est un petit peu, on voit ces deux auteurs qui s'opposent, Nestorius, Cyrille. Maintenant, la question va être reprise au niveau de l'Église universelle à travers deux conciles, qui sont les conciles d'Éphèse et de Chalcédoine. Un grand B, d'Éphèse à Chalcédoine. C'est un petit voyage à travers l'Asie mineure. Alors, on retrouve, petit A, Théodoret de Cyre, que Cyril avait attaqué et qui, lui, défendait la position de Nestorius. Alors, ce Théodoret, né en 393, vous voyez, une demi-génération après les deux protagonistes, et il s'éteindra en 460. Il est né à Antioche. Alors, vous vous souvenez qu'Antioche, c'est quand même la première cité chrétienne d'Orient, avant que Constantinople soit fondée. Donc, c'est vraiment le berceau du christianisme. Donc, il naît à Antioche dans une famille aisée. Il reçoit une excellente formation. Et à la mort de ses parents, quand il a 23 ans, eh bien, il se retire dans un monastère en Syrie.